Il est 17h sur Art District. Bienvenue dans Jazz Story. Luxi Bright, les ateliers du jazz du Centre des Musiques Didier Lockwood. Sur 5 épisodes, pendant 5 semaines, immersion sonore auprès des professeurs et des élèves du Centre des Musiques Didier Lockwood, Adam-Marie Lellis. C'est une école fondée il y a 18 ans par le virtuose du violon jazz pour transmettre aux jeunes musiciens en devenir l'amour de la musique en se découvrant soi-même. Didier Lockwood le dit lui-même, le jazz c'est le corps, c'est une danse intérieure. Suivez les pas et le micro de Luxi Bright pour découvrir comment on apprend le jazz aujourd'hui, quels sont les jeunes qui choisissent cette voie, quelles sont leurs motivations. Une école de jazz qui prône une pédagogie basée sur l'épanouissement personnel et l'harmonie entre les profs et les élèves. Jour 2, atelier batterie et atelier piano.
Chante-le en même temps de jouer. Donc ça fait... Simplement pour installer le truc, on va fonctionner par mesure. Donc la première mesure, ça se donnerait. Et ça fait...
Je suis avec Elvire, qui est donc une des élèves d'André Charlier en batterie ici au CMDL. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, nous parler de ton parcours, combien de temps ça fait que tu étudies ici?
Alors moi, c'est ma première année ici. J'ai pris des cours de jazz à l'école conservatoire à Villeurbanne, à l'UNM de Villeurbanne. Donc d'accord. J'ai eu un DEM jazz. J'ai fait aussi l'école Agostini, une école de batterie. Jazz.
Et donc tu fais quelle formation exactement ici au CNL? Parce que je sais qu'ils en proposent plusieurs.
Moi, je fais la formation qui est financée par l'AFDAS. En fait, je suis intermittente du spectacle.
D'accord.
Et c'est une formation, la formation professionnelle.
Et comment ça se passe aujourd'hui? Enfin, t'es satisfaite de la formation de cette première année?
Oui, alors j'ai... En ce qui me concerne, j'ai mis du temps un peu à trouver mes marques.
Il y a une approche qui est assez unique ici.
Je trouve qu'elle est très différente, c'est l'approche en effet qu'il y a ici, par rapport au conservatoire ou aux autres écoles ou aux autres profs avec qui j'ai pu travailler. On sent un pilier commun, un socle commun à tous les profs, une philosophie commune, on va dire, plutôt à tous les profs, qui est ce truc-là du travail de l'horloge interne, du champ intérieur. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a pas mal d'écoles qui oublient de faire travailler ça, qui travaillent plus sur la technique, sur l'instrument lui-même, et on oublie le côté plus corporel.
Est-ce que vous comprenez?
Ouais.
Hein? Donc si on fait l'ordre ensemble avant de l'intégrer dans un rythme, cette première mesure, donc ça fait pa-gui-di-di-gui-di-pa-gui-di-di-gui-di.
Est-ce que du coup tu trouves que ça apporte quelque chose de nouveau un peu à ta façon de jouer et ta façon d'envisager le jeu justement et le jeu avec les autres?
C'est marrant parce que en cours il y a des choses que je vois, qu'on voit et que moi j'ai déjà vu avec d'autres profs. Mm-hmm. Et au début je me disais bon je vais revoir les mêmes choses, ouais. Et en fait pas du tout parce que la manière d'appréhender les choses sont vraiment différentes,
ouais.
Et du coup c'est comme si tu les réabordais pour la première fois.
Ouais.
Il faut c'est que dans votre lab et tout le temps, vous fassiez quoi?
Chante.
C'est de chanter un jour. Et à un moment donné, ce truc va se renverser. C'est-à-dire que ce n'est plus tes mains qui vont imposer le rythme, c'est ce que tu chantes qui va imposer le rythme. Et souvent, au début, on n'a pas souvent pratiqué comme ça. Donc on fait ça. Tu sais, il y a un moment donné aussi où ton fonctionnement intérieur fera que tu te dis, tu n'as pas besoin de chanter en bougeant les lèvres. Quoi, tu vois. Moi, je sais que dans le fond, avec les années maintenant, si je fais pas ça, je ne sais pas quoi jouer, quoi.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
pour moi, c'est pas possible de faire... Et puis de faire quelque chose comme ça, ça paraît trop être un exercice pour moi. Alors.
Ouais.
Et ça paraît pas être... J'ai l'impression de ne pas être lié à la musique, quoi, tu vois. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de chanter le thème, de l'introduire avec un texte. Quoi. Tu peux garder un même thème et tu ajoutes des notes, t'en enlèves d'autres. Mmh. On a déjà fait ça en fait,
non?
J'ai jamais fait ça. Regarde, par exemple, tu vois, tu prends la page 2, tu prends la page 2 du livre. Fais le poche, pas voir, tu kiffes, regarde ce que t'as, tu kiffes, hop, pop, tu pom, pop, tu peux t'aider, tu pom, baptiste, tu pom, pop, tu peux boum, tu ah, pom, boum, tu ah, tu peux boum, tu ah, ah, ou pri, hop, tu pom, voilà. Si je te demande de faire la deuxième ligne, qu'est-ce que tu peux donc, bah, bruquet, gadon, donc, voilà, bah ouais, c'était ça.
Oui, je sens quelque chose qui se débloque, en
ouais,
fait.
Ouais.
Il va falloir du temps. Je pense que c'est un grand travail de digestion et, et de temps dans la tête, dans le corps. Mais si, il y a quelque chose qui bouge.
Comment tu arrives justement à équilibrer avec tes projets à côté ?
Les cours sont du lundi au jeudi. L'école a fait en sorte aussi que les week-ends soient dispo, soient libres pour, pour ceux qui ont besoin de jouer.
Bon, ben merci beaucoup Elvire et bonne continuation.
Il y a une logique par exemple. Si là, on est dans un truc de samba. Faut faire pop-ti-pou-boum. Là, qu'est-ce que... Le pop-ti-pou-boum, tu as envie de répondre quoi à ça ? Tu vois, par exemple, la réponse tout à l'heure, tu fais des trucs comme... Pop-ti-pou-boum, pa-pa... Tu vois, paf, tu peux boum, tu kek, kek, koum, pada, tu copies, pa, pada. C'est comme si tu parlais. Mais toi,
Je suis avec André Cherlier. André, vous êtes le professeur principal de batterie ici à l'école au Centre des Musiques Didier Lecoud. Vous étiez même un peu à l'origine du projet avec Didier Lecoud et Benoît Souris.
Oui, depuis le début, hein, depuis le début, puisque on a créé cette école ensemble avec Benoît, Didier et ma femme. Je pense que ici au CMDL, on insiste beaucoup sur deux bases qui sont à mon avis primordiales, qui sont le rythme et l'oreille. Et on commence tous les lundis par ces cours-là. Les élèves arrivent le lundi matin et ils ont une heure de cours de rythme, chanté, et ils ont aussi un cours d'oreille. Et vous avez pu voir ici au cours de batterie que l'élément rythmique sans la batterie, c'est-à-dire dans le chant, est omniprésent tout le temps.
Mais justement, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir tout le temps ce rapprochement avec le chant aussi, que justement essayer d'effacer un peu la frontière entre l'instrument et le corps. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué un peu dans les cours de Didier Lecoud, l'idée de toujours que ça vienne un peu de l'intérieur. Moi, j'ai retrouvé ça un peu ici dans ce cours. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça ?
Oui, c'est, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la musique que tu vas jouer, tu dois pouvoir la concevoir pratiquement sur l'instrument. C'est au chant intérieur c'est pour ça que quand tu arrives à faire jouer ton instrument avec ton chant intérieur, l'instrument devient le prolongement de toi-même. Et tu ne subis plus l'instrument. L'instrument, il est au service de ton caractère, de ta personne, de ta sensibilité. C'est le contraire. Parfois, je vois certaines personnes qui jouent parfois très bien, mais j'ai l'impression qu'elles sont dictées par des exercices techniques qu'ils ont joués sur l'instrument. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la technique. On insiste beaucoup sur le côté performance technique sur l'instrument qui sera au service de votre chant interne. Quoi.
Cette année, à l'école, combien d'élèves de batterie est-ce qu'il y a ? Est-ce que les cours se font toujours en binôme comme ça ?
Alors, les cours se passent toujours, je suis toujours avec 3 élèves. On a 9 batteurs à l'école.
D'accord.
Et il n'y a jamais plus. C'est-à-dire que la classe de batterie est complète. Elle est complète depuis le début de l'école,
d'accord,
d'ailleurs. Et on ne veut pas grandir à ce niveau-là pour garder un côté qualitatif. Quoi.
D'accord. Donc là, on a assisté au cours de batterie. Le matin, ils ont un cours de rythme. Quels autres cours est-ce qu'ils vont avoir la semaine ?
Ils ont le cours d'harmonie, le cours d'arrangement, d'accord, puis alors différents cours de combo, d'orchestre,
de musique
cubaine, de musique brésilienne, de funk, de rhythm and blues, coup de jazz, évidemment.
Ouais.
On est quand même dans une école de jazz. Dans sa vision la plus ouverte, quoi. C'est-à-dire que pour nous, le jazz est un tronc commun qui permet justement d'introduire dans tout style que tu joues cette logique d'improvisation. Quoi.
Ouais.
Et c'est à travers le jazz que tu trouves ça.
Ouais.
Parce que c'est la musique qui, depuis 100 ans maintenant, a mis toute son énergie à essayer de développer l'improvisation. Donc après, bah, tu fais de la musique cubaine et tu improvises. Mais si tu n'as pas les fondements du jazz, tu restes toujours avec une improvisation un peu parcellaire. Quoi.
Ouais.
C'est pour ça que pour nous, le jazz n'est pas un but, mais il est le tronc commun qui te permet d'asseoir ton savoir.
Merci beaucoup André Charlier.
Quelle vitesse tu le fais?
Donc je fais la... Ré, Sol... Je fais à cette vitesse. Toi alors, La, Sol, Ré mineur, Sol, Do et Do mineur, Fa altéré.
D'accord, donc du coup tu commences par quel
La mineur 7.
Là.
1, 2, 3, 4. Donc je suis avec Benoît Souris, qui est donc le professeur principal de piano ici au CMDL, et donc son élève, enchanté Michael. Donc là je viens de vous interrompre, vous étiez en cours de piano, est-ce que c'est un cours individuel?
Non, il se trouve qu'aujourd'hui, on a 2 sur 3, il y en a 2 qui sont absents, donc c'est devenu un cours individuel, par la force des choses, mais du coup on était heureux, parce qu'on travaille, c'est toujours différent, un cours individuel. C'est presque vraiment là, on travaille c'est à la carte, et Michael est un étudiant qui est particulièrement, je ne dis pas ça parce que tu es là, mais je le pense, particulièrement travailleur, doué et intéressant. Donc il est très à la demande, très en demande de plein de choses.
Et donc, Michael, combien de temps est-ce que ça fait que t'es à l'école? Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours?
Moi, c'est le tout début, en fait. Du coup, c'est le tout début pour l'école et c'est le tout début pour le jazz aussi.
Ah, d'accord.
Moi, je viens du classique à la base, en fait. Du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'études. Et donc, j'ai toujours été dans le système des conservatoires. Et donc, du coup, j'ai suivi un apprentissage assez strict, classique, avec... beaucoup de techniques, beaucoup de répertoires, et du coup je me suis rendu compte que toute la richesse que j'avais dans le répertoire que j'apprenais m'empêchait pas d'être libre, mais m'empêchait de faire ma propre musique et de créer mon son à moi, et je me suis dit pourquoi pas à un moment donné essayer l'improvisation et essayer d'autres musiques dont je méconnaissais un peu l'existence avant.
D'accord.
Et du coup, je suis tombé en arrivant en Bretagne, parce que j'ai beaucoup bougé, et donc du coup, en arrivant en Bretagne, je me suis intéressé aux musiques traditionnelles, et puis en particulier au jazz, parce que j'ai rencontré des jazzmen là-bas. C'est assez étrange en Bretagne, mais il y en a beaucoup, et ils sont super, il y en a beaucoup, beaucoup, et voilà. Et donc du coup, rapidement, j'ai terminé un cursus de jazz, comme j'ai pu le faire en classique il y a une dizaine d'années, je l'ai terminé l'année dernière et j'ai tenté l'école sur le coup.
D'accord.
Également.
D'accord, donc tu avais déjà un background en jazz avant, en venant ici, donc tu as fait une petite
fait
formation.
Ça fait 2 ans à peu près que je fais du jazz là, et puis pour moi c'est vrai que ça va assez vite, et là je tire un peu les freins parce que je me rends compte que c'est le style dans lequel j'ai vraiment envie de... En fait c'est l'état d'esprit dans lequel l'école dispense ses cours, c'est-à-dire l'esprit un peu de famille et puis avec une idée aussi... je ne sais pas si c'est vraiment la seule idée à mettre en avant, mais l'aspect un peu autodidacte, c'est-à-dire chacun vient avec son propre background, son propre bagage.
C'est un mot qu'on a déjà entendu en référence.
Surtout avec des gens qui n'ont pas forcément exactement le même suivi très académique, mais en même temps qui ont quand même une vision de la musique qui est extrêmement sensitive et personnelle. Et en mixant tout ça avec tous les profils qu'il y a, ça crée quand même une ambiance qui est assez particulière. Et on rentre très rapidement dans le vif du sujet, quoi, parce que du coup c'est quand on joue avec la personne, on joue vraiment avec la personne, et y a un côté plus moi j'ai pris une claque en arrivant ici parce qu'il y a énormément de travail, énormément d'informations, énormément de personnes différentes, donc on vit des choses qui sont assez prenantes, et à la fois du coup je perds pas le côté discipline. Si vraiment je m'y mets, je peux retrouver cette chose là il y a beaucoup d'enseignants, j'ai beaucoup de matière. Et
Tant que pédagogue, quand on se retrouve avec justement des élèves qui ont un background qui est beaucoup plus classique, est-ce que, parce que j'imagine que ça doit présenter, on se retrouve avec un très fort bagage technique si on a suivi un enseignement classique, mais est-ce qu'il y a aussi des barrières un peu à briser quand on est pédagogue?
Ça peut, mais dans le cas de Michael, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que lui, il a vraiment, c'est tout bénef pour nous, parce que lui, dans le sens où il joue très bien du piano déjà, donc il n'y a pas de problème de piano, on ne parle pas de piano d'ailleurs, enfin on en parle, mais il sait jouer du piano, donc à partir de là, on parle de musique. L'instrument n'est qu'un vecteur. professeur, mais bon, dans son cas, c'est un, encore une fois, je veux pas te jeter des fleurs, mais c'est un peu un cas exceptionnel, c'est-à-dire qu'il va très vite. Il a ce background pianistique, mais aussi musical, il comprend très vite, il va très vite. Donc pour nous, c'est vraiment très agréable, et moi en particulier en piano, c'est un bonheur parce qu'il boit et c'est une éponge, quoi. Il prend tout et la semaine d'après, non seulement il connaît tout, mais il en connaît deux fois plus. Mmh. Et donc c'est extrêmement agréable. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les étudiants, mais bon, lui, c'est vraiment une exception pour ça. Mais pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Michael, c'est vraiment l'esprit de l'école. C'est qu'on est tous autodidactes. Tous les profs sont tous des gens comme toi. Moi, j'ai appris, j'ai jamais eu de prof de jazz. Donc, on vient avec notre culture. On a tous appris de manière un peu empirique. Et finalement, on partage notre expérience. Nous, on est juste des grands frères qui donnent le relais, quoi. Notre enseignement, il va changer d'un prof à l'autre. On dit à peu près la même chose. Hein. Ouais. Jouer musical, mettre de l'émotion, tout revient à l'émotion finalement. Mais tout ce qui est technique, on dit la même chose, à part que c'est pas avec les mêmes mots. C'est chacun son ressenti, chacun son apprentissage, et je crois que c'est la richesse de cette école, c'est qu'il n'y a pas un seul prof dans chaque instrument. Alors, en batterie, vous avez vu, il y a André, puis il y en a d'autres. En piano, c'est pareil, tous les jeudis, il y a un autre prof qui vient. Voilà, donc c'est l'idée de cette école, c'est qu'on est, on forme des autodidactes comme nous on a été, tout en donnant des un peu de théorie quand même, et en expliquant les choses, parce que il faut que c'est quand même une école, faut pas simplement c'est vas-y joue, le feeling c'est génial. Non, il y a tout un background, il y a tout un basique qu'il faut expliquer, et puis construire sur des bonnes bases, quoi.
Et au niveau de la technique du piano, justement, est-ce que parce que le piano c'est un instrument qui est bien évidemment soliste et accompagnateur, est-ce que placer une emphase particulière sur une de ces dimensions là ou est-ce qu'au contraire les frontières sont un peu floues entre ces deux aspects là du jeu du pianiste?
C'est sûr que l'accompagnement fait partie intégrante du jeu du pianiste, c'est-à-dire que on parle de aujourd'hui là, on est en train de travailler un petit peu sur une forme avec on faisait des solos, mais moi j'axe beaucoup mon enseignement sur l'accompagnement, parce que dans un pianiste il doit d'abord faire des basses, être capable de jouer des basses, être capable de jouer des accords. On a beaucoup travaillé sur l'organisation des ce qu'on appelle les voix dans les accords, les voicings et l'organisation des notes à 4 sons, 3 sons, 5 sons. Enfin, ça c'est un gros travail. À la limite, on n'a pas depuis le début de l'année là, on a très peu parlé d'improvisation finalement.
D'accord.
Parce que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Chacun a son langage et on va en parler, mais il y a tellement de choses à le rythme de base. On parle beaucoup de rythme, on parle beaucoup d'harmonie. Donc finalement, l'improvisation c'est un mélange de tout ça, mais c'est un peu on n'axe pas toute l'année sur l'improvisation. Il y a tellement de choses. L'accompagnement c'est tellement important.
Je voulais rebondir tout simplement, c'est-à-dire que déjà par rapport à tout ce qui est du ressort de la technique instrumentale, moi je suis arrivé dans le jazz avec justement au départ, vraiment c'était les premiers instants, une certaine frustration, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de devoir repartir complètement à zéro, parce qu'en classique, j'étais habitué à jouer des concertos, à jouer déchiffrer des partitions extrêmement complexes, donc on fait beaucoup de notes, ça progresse extrêmement vite, et le fait d'arriver, moi, dans cette dynamique de transmission orale, et d'improvisation complète, mon niveau... le niveau que j'avais au niveau de la virtuosité, j'entends, ça revient vraiment à zéro, parce que du coup, je peux pas jouer aussi vite, je peux pas faire tout ce que j'avais avant, les repères sont plus les mêmes, donc du coup, c'est vraiment de l'oreille, on dialogue vraiment avec l'autre, comme on est, quoi. Même si on ressort un background qui est de tradition, on aura quand même d'abord, on sera d'abord à poil, quoi. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. En fait, depuis que je suis gamin, pour moi, l'improvisation, ça fait partie de mon quotidien. Mais je ne connaissais pas du tout le répertoire. Je connaissais pas la pop. Pour moi, j'ai toujours été dans le classique.
Ouais.
Mais mon instrument, pour moi, quand je travaillais 8-9 heures par jour, c'était 4 heures de classique et 4 heures pour moi où je fais des trucs.
Ouais.
Et j'ai jamais forcément beaucoup écrit, mais j'ai énormément composé, entre guillemets. Enfin, c'est même pas composé, parce que composer, c'est écrire, c'est fixer. Mais moi, du coup, c'était.
Tu jouais quand même 4 heures par jour
C'est 4 heures par jour où je créais mes morceaux, où je m'amusais à tourner des boucles et des conneries.
Ouais, donc tu étais déjà dans l'apprentissage du jazz.
Voilà, je sens forcément le savoir. Donc, du coup, c'est vrai que quand je parle de jazz, c'est le jazz, la culture, le contenu, le. Ouais, le blues, le langage, l'écoute et le répertoire. Moi, il y a deux ans, je savais pas qui
le
c'était.
Le vocabulaire aussi, parce que c'est en écoutant et en reproduisant aussi les grands artistes.
Mais du coup, par contre, je suis arrivé à un moment donné, avant le jazz, avant il y a deux ans, je suis arrivé à un style qui mélange classique, pop, et choses un peu debussistes. Parce que j'adorais cette esthétique-là, quoi. Ravel, Debussy, Rachmaninoff, chez les Russes. Musicien des pays de l'Est aussi, j'aimais bien ça. Puis après, je suis arrivé dans le jazz par Keith Jarrett, par des mecs qui déjà appliquaient une culture classique et moderne, je veux dire.
De toute façon, ici dans le travail de l'oreille, par exemple, moi je fais travailler les modes, c'est vraiment pas du jazz, c'est vraiment des modes comme on trouve chez chez Ravel, Debussy, chez les impressionnistes. Moi, je suis pas dans mes cours d'oreille, qui sont pas des cours de piano, mais des cours d'oreille avec tout le monde. On est vraiment dans, comme André, lui, il fait du rythme, c'est pas du jazz, c'est du rythme. Moi, je fais de l'oreille au sens large du terme.
D'accord.
C'est-à-dire que dans mes citations, ça peut être très bien du Ravel ou du Bach ou de la musique baroque. Et je veux dire, de toute façon, ça, c'est la même musique.
Ouais.
Ce qui change, il y a des données qui changent. Mais...
De toute façon, Ravel, Debussy, tous les bebopers, un peu, ils citaient souvent Ravel, Debussy. Je sais que Parker, il en parlait souvent, comme étant des grosses influences. Ouais.
Et en particulier pour les gens qui ont joué dans les années 60, les gens comme Bill Evans ou les gens comme Miles, qui sont sortis un peu du bebop très tonal, ils ont fait un peu la même démarche que les musiciens classiques. Après la musique romantique, ils sont allés sur l'impressionnisme. Et on retrouve exactement la même démarche. Donc quand on travaille les modes, qu'on apprend à jouer les modes et à les entendre, on n'est pas du tout dans le jazz, on est dans la musique.
Ouais, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après, quand je reviens maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas encore vraiment beaucoup fait, parce que j'attends encore un peu avant de m'y remettre. Mais le jour où je vais vraiment revenir au classique, je compte l'année prochaine ou l'année d'après me remettre à des concours, des choses comme ça, je suis sûr et certain qu'en relisant mes pièces classiques, donc fixées sur le papier, je vais les penser complètement différemment.
Bah oui,
et du coup, c'est aussi pour ça que je fais cette école et pour ça que j'essaie vraiment de bosser le jazz à fond, parce que je suis sûr qu'en revenant après au répertoire, ça va m'ouvrir les oreilles complètement.
C'est pas des approches anti-esthétiques, quoi.
Non, parce que du coup, moi je me suis dit assez jeune, en fait, j'ai un piano devant moi, donc du coup, c'est clair que du coup, un piano, il ne fait pas marquer classique dessus, quoi. D'ailleurs, moi, je suis prof aussi, j'ai un diplôme d'État, donc j'enseigne, et puis dans les conservatoires, des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais moi, il est hors de question que je fasse du classique, point barre. L'enfant qui a 8 ans, il vient, c'est pour avoir des cours de piano, des cours de musique, donc du coup, le piano, il sait pas encore s'il va faire que du classique ou pas, c'est pas à l'âge de 8 ans qu'on peut, donc du coup, il faut lui donner un maximum d'outils, lui faire écouter des CD, et puis un jour, il aura tellement tout autour de lui qu'il pourra se dire, je vais là, ou là, ou là, ou là, et donc du coup, c'est ça que je veux. Et donc, c'est plus compliqué, mais c'est au final, je pense que ça va être beaucoup plus beau, quoi. Beaucoup plus cool, en tout cas.
Oh, super.
Et pour l'instant, je préfère prendre le temps et plus écouter que me mettre à faire des phrases rapides ou de jouer avec beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et ça me permet de pouvoir vraiment écouter l'autre, quoi. Et sans,
Est-ce que tu joues beaucoup avec les autres élèves de l'école, justement ?
Oui, ça commence beaucoup. Enfin, là, du coup, moi, ce qui est assez important, c'est lié aussi à là où j'en suis, c'est que j'ai 28 ans. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'être un musicien professionnel, quoi. Je le suis déjà, entre guillemets. Et dans le jazz, c'est, comme j'ai commencé il y a très, très peu de temps, j'ai tout à reconstruire. Donc, du coup, l'objectif pour moi, et d'ailleurs, ça marche bien en étant ici, c'est de créer vraiment des groupes pour vraiment aller démarcher. On enregistre, par exemple, au mois de janvier, c'est lié aux examens qu'on fait, des maquettes et tout ça pour aller démarcher. Il y a des dans le cadre de l'école, donc du coup ça nous permet aussi de nous produire. Et à côté de toutes les rencontres qu'on fait aujourd'hui, ce sont des rencontres qui doivent, si ça marche, et là tant mieux, mais qui doivent perdurer après, parce qu'on est amené à faire de grosses rencontres ici, et encore l'année prochaine ce sera ma deuxième année, il y a encore plein de nouvelles personnes qui vont arriver. Donc,
et d'ailleurs il te reste combien d'années?
Deux ans. D'accord. Moi j'ai choisi, en fait, j'aurais pu faire, il y a différents cursus ici, j'aurais pu faire un cursus professionnel, mais je voulais continuer les études, aller jusqu'à un DNSPM, et puis au moins ça me laisse 3 ans, et pour moi, à mon âge maintenant et avec mes priorités, c'est beaucoup m'ont dit, encore 3 ans d'études. Moi, je pense pas études. Je pense boulot, rencontre et jam session, aller à Paris. Puis je suis à Paris, donc je bosse, en fait. Donc c'est 3 ans, que ce soit 3 ans d'études ou 3 ans à bosser sans être dans un cursus. Pour moi, c'est exactement ça. C'est différent parce qu'on a la chance d'avoir des profs ici, mais mon travail, il va tout droit. Enfin, c'est quoi.
Est-ce que vous jouez ensemble parfois, d'ailleurs?
On joue beaucoup pendant les cours, pas en dehors de l'école, parce qu'on n'a pas eu l'occasion, mais ça pourrait, hein. Ça pourrait, ça se fera certainement.
Ça pourrait, ouais, carrément. ça pourrait, ce serait un honneur d'ailleurs, je pense. Mais, du coup, il faut du temps encore, je pense. il faut du temps, ouais.
Super, bon, ben merci beaucoup, Benoît, Mickaël, et bonne continuation.
Merci à vous.
Continue à jouer.
Ouais, continue à jouer.
Tu prends des quelques notes.
Voilà, ouais, super.
C'était les ateliers du jazz du Centre des musiques Didier Lockwood dans Jazz Story, série sonore et reportage par Luxie Bright, épisode 2 sur 5. A noter que Mickaël Vigneron, que vous venez d'entendre dans ce reportage, sera aux côtés de Pierrick Pédron à Saint-Malo ce samedi 3 mars à 16h à la Grande Passerelle pour un jazz talk consacré à Charlie Parker, le thème étant plus précisément Before and After, Charlie Parker. Ça va parler jazz, ça va parler de l'histoire du jazz et surtout ça va jouer avec donc Pierrick Pédron au saxophone alto et Mickaël Vigneron au piano. C'est une entrée libre à la Grande Passerelle à Saint-Malo ce samedi 3 mars à 16h. Pour ce qui est de notre série sonore consacrée au Centre des musiques Didier Lockwood, rendez-vous donc la semaine prochaine pour le troisième épisode. Très bel après-midi jazz sur Art District.